L'info du jour avec aujourd'hui David Corgier, directeur général de Manaslu Ingénierie, basé à la Motte-Servolex, c'est pour parler des bâtiments intelligents. Votre travail avec Manaslu Ingénierie, c'est de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, entre autres pour coordonner les projets de sorte que les bâtiments soient le plus adaptés possible au développement durable. Et d'ailleurs, vous vous appuyez sur une méthodologie que vous appelez Génépi. Alors, c'est pour amener évidemment les bâtiments à être plus basse consommation. Comment est née cette méthode ?
Personnellement, j'ai rejoint le CEA INES fin 2004 pour justement m'occuper de bâtiments démonstrateurs qui seraient monitorés, c'est-à-dire instrumentés et suivis en continu pour pouvoir évaluer le niveau de performance du bâtiment. C'était la démarche Génépi qui était initiée en 2005 et qui s'est achevée lors de la création de Manaslu en 2009, puisqu'on a valorisé cette démarche pour créer un petit cabinet d'ingénierie qui est à Savoie Technolac. Donc on est des Savoyards et on n'est que 6 personnes. On essaye de grossir, mais de trouver des compétences et on accompagne donc des gros maîtres d'ouvrage, des majeurs, ça peut être des promoteurs, ça peut être des industriels, pour que leur bâtiment soit au niveau de performance attendu.
Oui, mais alors du coup, cette fameuse méthodologie, comment est-ce que vous vous en servez ?
Alors on s'en sert, on récupère les données de monitoring des bâtiments et on essaye de détecter quels sont les défauts, d'analyser la causalité et ensuite soit de modifier les modes calculatoires, ce qu'on appelle la simulation, soit créer des méthodes qualité préventives pour limiter le risque et être sûr qu'on va ne plus observer ce défaut, soit sur ce bâtiment, si on peut le corriger, ou sur une opération suivante. Donc en fait, on est en apprentissage continu depuis 13 ans que l'on existe sur comment bien travailler sur un projet.
Et vous travaillez donc sur 4 points précis. Il y a bien sûr cette assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que là, vous allez discuter avec les maîtres d'ouvrage dès le projet d'un bâtiment, c'est ça ?
Alors ça, c'est le plus important, c'est le dialogue, c'est-à-dire déjà avoir un maître d'ouvrage qui prend conscience qu'un projet, ça va pas être facile, donc il y a des méthodes à mettre en place, et puis surtout, il y a des contraintes qui sont réglementaires, qui peuvent être géographiques, et qui sont aussi généralement financière, pour ensuite avoir les ambitions qui vont coller avec les contraintes. Et ça, c'est le plus important. C'est de se dire, vous voulez atteindre un objectif, d'abord essayer de le déterminer le mieux possible.
Et puis, une fois que vous avez travaillé sur le projet, vous faites de l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Là, pour le coup, vous allez sur le chantier et vous voyez comment cela peut s'améliorer.
Alors, en fait, on a toujours une mission pour la maîtrise d'ouvrage, mais on va assister la maîtrise d'œuvre à avoir une conception qui soit conforme aux attentes. Parce que malheureusement, les maîtres d'œuvre ont des contraintes réglementaires et ont des pratiques maintenant qui sont limitées, pas tout le temps, mais généralement, on se limite à la satisfaction des normes et de la réglementation. Et nous, on va essayer d'avoir justement ces mesures préventives qui nous permettent de guider la conception pour avoir une conception satisfaisante par rapport à l'ambition de résultats en exploitation. Et ensuite, on va accompagner les entreprises, toujours sous le couvert de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour que le chantier se passe le mieux possible. Donc, on va traiter la qualité d'enveloppe, l'étanchéité à l'air, les ponts thermiques, la mise au point des équipements, pour ensuite avoir une exploitation qui soit très fluide.
Et c'est d'ailleurs le troisième point finalement de vos fonctions, c'est que vous avez un logiciel que vous appelez bâtiment virtuel qui vous permet justement de faire des calculs, c'est bien ça ?
Oui, alors le bâtiment virtuel c'est toute une suite de logiciels, on utilise des moteurs de calcul ultra perfectionnés, on développe des choses aussi qui sont très singulières à notre échelle pour avoir le modèle le plus proche possible de la réalité. Et ce modèle au début il est un petit peu on va dire générique et il va s'affiner jusqu'à la réception du bâtiment et ensuite on va recaler ce modèle pendant la phase d'exploitation pour évaluer si on est à la cible ou non en fonction des hypothèses premières, puisqu'on n'a jamais le même fichier météo, on n'a jamais les mêmes usages, la même occupation que ce qui est prévu, puisque dans la vie, un projet, ça évolue, donc on en est conscient. Et donc, ces méthodes de calcul, elles sont uniques. On les utilise pour nous, pour l'instant, pour faire un bon boulot, voilà, pour être le moins faux possible. Et puis après, on verra par la suite si on peut disséminer ça dans la filière.
Et puis, évidemment, vous avez aussi un volet formation qui est bien logique. Parlez-nous de ce qu'est aujourd'hui, parce qu'on en parle de plus en plus, le smart building, parce qu'en effet, la construction, ça évolue, mais on a presque l'impression que c'est resté un peu coincé dans les années 80, ça n'évolue pas aussi vite que l'automobile, par exemple. Alors, pour autant, on sait faire des bâtiments vraiment intelligents. C'est quoi un smart building ?
Alors, le smart building, c'est un bâtiment qui va être équipé de capteurs, qui va être équipé de compteurs d'énergie, de compteurs d'eau, qui vont être communicants. Donc, l'important, c'est en fait de dépasser la dimension du contrôle visuel d'un compteur qu'on observe encore dans la majorité des bâtiments. On a des compteurs communicants, mais on envoie un technicien pour relever à la fin de chaque mois tous les compteurs. Donc, on va dépasser cette étape et on va franchir un cap en ayant toutes les données en ligne. Et ensuite, Le défi, c'est d'avoir des occupants qui sont capables de modifier les conditions d'usage de leur zone de travail ou de leur logement. Donc ça, on y arrive, c'est la domotique. Mais quelque chose qui n'est pas pratiqué, c'est gérer la qualité de la donnée des mesures. Donc souvent, on génère des indicateurs qui malheureusement sont erronés puisqu'on n'a pas la bonne qualité, on a perdu la com, etc. C'est des choses qu'on observe régulièrement. Donc là, on est très loin de la qualité automobile. Donc il faut travailler là-dessus. Et on a développé des solutions logicielles de pilotage, enfin de contrôle automatique de la qualité de données et de la qualité d'exploitation. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait sur un bâtiment à Grenoble pour Schneider Electric et pour Bouygues Immobilier. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a 27 000 m² de bureaux qui sont tout le temps monitorés. Et toutes les semaines ou tous les mois, on donne des rapports. On leur dit, voilà, vous avez tel défaut, corrigez-le vite. Et ça nous permet d'avoir un vrai smart building qui malheureusement ne se concrétise pas toujours sur le territoire national.
Si je vous pose la question, c'est parce qu'ici à Courchevel, nous avons des bâtiments, alors pour le coup particuliers pour le locatif, mais qui sont hors normes tant par la dimension que par les moyens d'ailleurs développés. Ça prendrait tout son sens d'intégrer l'idée du smart building dans ces bâtiments-là.
Ah, il est clair qu'avec des occupations qui sont saisonnières et des contraintes climatiques qui peuvent être très variées, ce serait tout son sens. C'est du travail, on a beaucoup de chauffage électrique, mais on a également vraiment un potentiel de progrès phénoménal. Il faut juste se rendre à l'évidence, c'est que on visite beaucoup de bâtiments, que ce soit pas à Courchevel, mais en Savoie, des bâtiments dits performants, et on se rend compte que vous avez par exemple des ventilations qui ne sont pas arrêtées la nuit quand c'est du bureau, ou des radiateurs qui ne sont pas arrêtés la nuit, etc. Donc il y a un énorme gain à faire en étant un minimum smart. Donc ce qui est important, c'est d'avoir juste la bonne technologie, être juste dans le juste nécessaire pour avoir de l'efficacité sans que ce soit une usine à gaz digital qui rebuterait et les occupants et les exploitants et toute la filière.
La commune de Courchevel est passée par une première phase d'un bilan thermique, par un bilan thermique aérien d'ailleurs. Évidemment pour vous, ça c'est très utile.
Ah, tout à fait, les thermographies, alors aérien c'est la première chose, c'est vrai que ça nous permet déjà de comprendre où sont les problèmes, donc c'est imparable et surtout quand c'est fait par une collectivité, c'est quelque chose d'objectif, donc c'est fiable. Après, il faut arriver à déterminer le schéma directeur, c'est comment on traite toutes ces problématiques et comment on fait pour avoir de la qualité, donc de ne pas se tromper, puisqu'en fait on a un gisement, mais si on le fait maintenant et que c'est mal fait, peut-être qu'on n'aura pas les moyens ou la volonté ou les conditions pour le refaire dans 10 ans ou 15 ans.
Vous y avez fait allusion, mais vous, vous dites, on cherche beaucoup trop à respecter la norme, alors qu'en fait il faudrait plutôt chercher toutes les nouvelles solutions pour déjà construire les bâtiments de demain, c'est bien ça ?
Tout à fait, on a une problématique, mais qui n'est pas limitée au bâtiment, c'est limité, je pense, quelque chose de culturel dans le monde occidental, c'est qu'on accumule les normes et elles ne sont pas toujours validées par le terrain, donc on peut avoir ce décalage-là. Et ensuite, on a dans la filière bâtiment une satisfaction à juste se limiter au respect de la norme, alors qu'on pourrait se poser des questions sur est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que même si on est conforme à la norme ou la réglementation, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans la pratique ? Est-ce que c'est une révolution culturelle qui est à opérer ? Et comme toute révolution, ça va prendre du temps.
Et oui, surtout que vous dites, il ne s'agit pas seulement de déplacer la norme pour le plaisir, c'est juste pour son propre confort, et éventuellement même pour ne pas avoir à devoir refaire des travaux avant 10 ans, parce que les normes changent.
Tout à fait. Alors, il y a deux problématiques, c'est que les normes vont changer, donc on a déjà le constat avec les étiquettes G, etc., qui posent des problèmes pour la mise en location des biens immobiliers. Là, apparemment, on va arriver à s'en sortir en montagne, mais on aura la problématique du durcissement des normes, et également peut-être des problématiques de non-satisfaction des clients et de devoir refaire des travaux parce que les usagers ne sont pas satisfaits des conditions de confort ou les consommations sont trop élevées. Donc c'est également un énorme enjeu.
Vous êtes le directeur général de Manaslu Ingénierie. Qui peut faire appel à vous ? Ce sont uniquement les professionnels ?
Alors nous travaillons principalement avec les professionnels, très rarement avec les individuels. Par contre, on peut travailler pour des copros. Ce qui nous intéresse quand on voit la problématique du bâtiment en montagne, c'est plutôt d'avoir une approche générique et collective, c'est-à-dire plutôt initier une approche de mutualisation des connaissances, mutualisation des bonnes pratiques. Et ça, on le développe avec des outils digitaux que l'on paramètre avec le CAUE de Haute-Savoie, par exemple, et sur lequel on pourrait peut-être imaginer de le disséminer, de le déployer à Courchevel et en montagne, en Savoie et dans les autres territoires, pour justement ne pas avoir que des ingénieurs qui courent de partout sur plein de projets, qui sont ultra occupés, qui font leur travail de plus en plus difficilement, donc de moins en moins bien, et plutôt utiliser le digital pour pouvoir déployer mieux et dans la sérénité, et surtout dans le collectif.
David Corgier, Manaslu Ingénierie, merci d'être intervenu en cette matinée sur notre antenne.
Merci beaucoup, à très bientôt.